Prenne à nouveau notre livre de Néhémie, mais je vous invite à garder en tête Luc chapitre 2. Vous avez remarqué, dans Luc chapitre 2, les anges ont dit « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie ». Eh bien, c'est aussi ce que l'on va voir dans le livre de Néhémie, le sujet d'une grande joie, et puis on fera un petit zapping pendant le message. Sur Luc 2. Je vous invite donc Néhémie, chapitre 12, verset 27, c'est le moment de la dédicace des murailles. Néhémie, c'est ce livre qui rapporte notamment le grand réveil dans la vie d'Israël, Juda tout particulièrement, à Jérusalem. La ville était dans l'agonie, était dans la ruine la plus totale, et puis les murailles étaient complètement détruites, dévastées. Le peuple était dans l'abattement, et puis les murailles ont été reconstruites en 52 jours, comme on l'a vu. Et puis, ils ont repris la parole de Dieu, ils l'ont ouverte, ils l'ont lue pendant des heures et des heures. D'autres se sont efforcés de l'appliquer à ceux qui l'écoutaient, et puis ils ont été bouleversés par ce message. Et donc là, ils vont dédicacer ces murailles. Verset 27, « Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient, et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par les louanges et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages de Netophatiens, de Bel-Gilgal et du territoire de Geba et d'Azmavet. » car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille, c'est Néhémie qui parle, les chefs de Juda, et je formai deux grands chœurs. Le chœur se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemeja et Jérémie. Des fils des sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemeja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph. Et ses frères, Shemeja, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaniel, Juda et Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils gravirent par la montée de la muraille les degrés de la cité de David, qui était en face d'eux, au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Le second cœur se mit en marche à l'opposé. J'étais derrière lui, avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananel et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi. Et les sacrificateurs, Eliakim, Maaseja, Minjamin, Miché, Eljoenai, Zacharie, Anania, avec des trompettes, et Maaseja, Shemeja, Eleazar, Uzi, Joshanan, Malkija, Elam, Ezer, les chantres se firent entendre, dirigés par Jizrakja. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites, car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et les purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers jour par jour. On donna aux Lévites des choses consacrées et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Jusqu'ici, la parole de Dieu. c'est l'inauguration des murailles. Et donc, chaque inauguration est une occasion d'une cérémonie solennelle destinée à marquer le début du mandat d'un homme. Souvent, c'est le sacre ou l'investiture, ou à célébrer l'achèvement d'un monument, ou à mettre officiellement au service un bâtiment, un lieu public. C'est un moment important. C'est souvent un moment fort en symbole. Les paroles prononcées, les citations ou les références choisies sont porteuses d'un message en elles-mêmes. Pour un bâtiment public, on coupe un bandeau tricolore. La chorale, cette même chorale qui nous a régalé à l'instant, était à l'inauguration du jardin des silos, un des services de l'hôpital Marchand. Et au dire de la directrice de tout l'hôpital, qui vient de prendre sa retraite, elle a dit « c'était un moment qui restera gravé dans ma carrière de directrice d'hôpital ». L'inauguration, c'est un moment festif, où on exprime sa reconnaissance aux acteurs qui ont rendu le projet possible. Il y a un peu plus de 2 ans, on a inauguré ces locaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En novembre 2016, c'était au fond la dédicace de notre bâtiment. C'était une journée de fête. Les autorités, les amis, les anciens pasteurs de cette église, les frères et sœurs en Christ de Toulouse, des environs, la chorale, le buffet, les discours, tout avait été préparé. Nous avons donné une rétrospective rappelant l'histoire de notre église, mais rappelant aussi toutes les péripéties. Notamment, j'ai rappelé que un des responsables de l'urbanisme m'a dit par téléphone, « Monsieur Bourrel, je vous appelle parce que normalement tout se fait par écrit, mais la chose elle est tellement importante que je peux pas juste vous l'écrire. » Il m'a dit, « Voilà, vous ne ferez jamais une église dans ces lieux. Vous n'ouvrirez jamais un établissement recevant du public. » Ça, pour plomber une journée. Vous voyez ces péripéties dans l'histoire de notre église. Et puis l'obtention des autorisations. Et puis la détresse que nous avons connue. Et puis les travaux. Et puis les efforts fournis, et puis comment Dieu nous a secourus. Finalement, l'intensité de la célébration, elle est proportionnelle à l'intensité du défi qui a été relevé, ou de l'épreuve. Quand les filles de l'équipe de France de hand remportent la Coupe d'Europe des Nations, ils l'ont fait il y a quelques jours, c'était un moment extraordinaire. Face à la Russie, cette même équipe russe qui les avait battus au début du tournoi. Et pendant cette finale, plusieurs fois le ballon a frappé les poteaux. Ah. La championne, celle qui était la plus capée de l'équipe de France, a été exclue pour le match. Rendez compte, ce genre de fait de jeu qui vous stresse, qui vous met dans un état de grande inquiétude. Pendant plusieurs minutes, ils ont joué sans gardien. Et puis finalement, ils ont remporté le titre. Alors la joie, elle est décuplée. La célébration, elle est d'autant plus forte, passionnée, d'autant plus intense. Et c'est aussi ce qu'ont vécu les habitants de Jérusalem ici. Voilà pourquoi ils célèbrent avec force la dédicace des murailles. Ils se sont préparés. D'abord, dans les versets 27 à 30, on voit que le peuple est réuni et ils sont rassemblés. Tout le monde vient, et en particulier les Lévites. Parce que les Lévites, comme vous pouvez le lire au verset 24, il est dit qu'ils étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu. Il rappelle que la charge principale des Lévites, c'était de porter les gens à louer et à célébrer Dieu de tout leur cœur. Tous veulent que les chants portent, que les cymbales percutent, que les luttes et que les harpes vibrent. Au verset 28, tous les chanteurs, les musiciens sont rassemblés. Ils quittent les villages d'alentour et puis ils viennent tous à Jérusalem. Au verset 30, ce sont les sacrificateurs et les lévites qui se purifient. Chacun des acteurs se lave. Tous veulent être beaux. Non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Ils purifient leur cœur parce qu'ils veulent que ce jour soit mémorable. Et puis ils nettoient la muraille. Les derniers outils sont rangés. Dernier coup de balai. Les portes également sont nettoyées. Tout est nickel. Et puis elles sont, et les gens, et les murs de la muraille, et les portes sont consacrées, c'est-à-dire purifiées. C'est-à-dire, on veut en fond symboliquement dire, non, dans cette ville n'entrera que ce qui est bon. Et on va retenir tout ce qui ne l'est pas. Et puis commence la procession dans les versets 31 à 42. Une procession extraordinaire, elle est conduite par deux grands cœurs. L'un est conduit par Esdras, verset 36, et l'autre par Néhémie. Ce sont les deux grandes figures de cet épisode de la reconstruction et du réveil spirituel que viennent de connaître la ville de Jérusalem et ses habitants. Esdras part vers la droite. Vous imaginez, ils montent tous de par le même côté. Esdras monte vers la droite et Néhémie part vers la gauche et ils se retrouvent à l'opposé de la ville sur les bords dans le temple. Imaginez ce que c'est que cette marche sur ces murailles. Imaginez ce que ça devait représenter pour tous ces hommes. Là, ils sont en train de surplomber la ville. Sur la muraille pour laquelle ils ont travaillé avec passion, ils marchent sur cette muraille qui, quelques mois auparavant, était impraticable, qui était complètement détruite. Les portes étaient consumées par le feu. Imaginez Néhémie, lui-même il avait fait le tour de la ville de nuit pour voir l'état, l'étendue des dégâts. Tout était en ruine, il a pris des notes, tout était ruiné. Et maintenant, ils sont sur cette muraille. C'est magnifique. La tâche est accomplie. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de détails. Ils sont passés par la porte, et puis dans les versets 38-39, en passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm. Ça nous parle pas beaucoup tout ça, n'est-ce pas? De la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananel et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis, puis on s'arrête à la porte de la prison. Pour nous, c'est long. Mais pour eux, quand ils marchent là, Chaque porte sur laquelle il passe, chaque espace sur laquelle il marche, ils se souviennent du labeur. Ils se souviennent de leur détresse. Ils se souviennent, mais là, il n'y avait rien. Quand on a fait l'inauguration de ces bâtiments, on a montré quelques photos des locaux avant qu'on rentre là-dedans. Je peux vous dire, c'était impressionnant. Il y avait des tuyaux partout, des tas de sable, des gravats. Il n'y avait pas de plafond, le toit avait été enlevé également. Ici, il y avait un blocos qu'on a mis des jours et des jours à casser. Pas d'estrade, pas de peinture, rien. Je peux vous dire, quand on regarde tout ça, nous, ça nous parle. Demandez à Samuel Niblack s'il se souvient de la pose du toit. Il est passé à travers. Oui, il s'en souviendra toute sa vie. Le toit, c'est plus juste un mot. Voyez-vous, quand on a vécu ces choses-là, il y a une émotion énorme qui est là. Et puis ils arrivent au temple. Ça, c'est les versets 42 et 43. Et les deux cœurs sont là. Et puis les chorales se lâchent maintenant. Sous la direction de Jizraja, nous c'est Rachel, les trompettes éclatent, les cymbales fracassent l'air, tous les instruments retentissent, l'émotion gagne tous les cœurs. Tout le monde vibre à ce moment-là, se sentant, ils se souviennent comment ils étaient dans l'abattement quelques mois auparavant. au comble du malheur et de l'opprobre, se sentant complètement abandonné, coupable, honteux. Et les voilà maintenant sur la muraille de Jérusalem, passionnés par la parole de Dieu et désireux d'y obéir. Pour la première fois, ils ont retrouvé de l'espérance. Ils ont un avenir à proposer à leurs enfants. Ils se souviennent de l'opposition rencontrée pendant les travaux. Ils se souviennent des moqueries. Ils se souviennent des ruses de tous leurs ennemis qui voulaient les empêcher de reconstruire. Ils se souviennent des moments terribles de découragement. Ils pensaient, oh, les pierres sont enfouies, on n'a plus de force, on n'a plus de capacité, on n'y arrivera pas. Ils se sont souvenus des nuits passées à travailler, à essayer de défendre la muraille qu'ils avaient construite pendant la journée. Ils se souviennent de l'épée et de la truelle qu'ils avaient pour bâtir. Ils se souviennent de la trompette qui retentissait et qui appelait tous les autres à se joindre à l'équipe qui était en péril. Et voilà que la muraille est achevée. Voilà pourquoi ils célèbrent. Voilà pourquoi ils chantent et glorifient leur Dieu. Vous avez peut-être achevé vos études cette année. Peut-être vous avez trouvé un travail. Peut-être vous avez eu un enfant. Vous avez achevé un projet. Oh, rendez gloire à Dieu. Célébrez-le de tout votre cœur, avec passion. Célébrez Dieu. Sinon, vous allez croire que c'est par vos propres forces que vous avez accompli ces choses. Il n'en est rien. C'est Dieu qui vous a soutenu. Peut-être vous l'ignorez, mais Dieu vous a soutenu, il vous a donné la capacité, il vous a donné le temps, il vous a donné la force, il vous a donné les parents, il vous a donné la santé. Il vous a tout donné pour que vous puissiez le célébrer. Ils se souviennent des paroles de Néhémie et ils sont émerveillés. Vous vous souvenez, Néhémie, quand il a fait le tour, la ville était en ruine. Il est allé trouver tous ces gens et puis il leur a dit « Levons-nous et bâtissons. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. » Il l'a fait. Ils se souviennent des prières qu'ils ont faites au Seigneur, grand et redoutable, pour qu'il anéantisse les projets malveillants de leurs ennemis. Et il l'a fait. Voyez-vous, leur cœur déborde de reconnaissance envers Dieu parce que leur Dieu les a secourus. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous souvenez du chant qu'on a chanté lors de l'inauguration? On a chanté ce chant « Notre Dieu ». Parce que ça correspondait tellement à ce qu'on avait vécu. Qui sonde l'Esprit de l'Éternel? Qui sait l'éclairer de ses conseils? Qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans? Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné, adorons. Notre Dieu, nul n'est son égal, prosterné, adorons-le. Verset 43, c'est probablement le cœur du chapitre, c'est le verset clé. Il dit, les chantres se firent entendre, dirigés par Jisrakai. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Ils ont loué Dieu avec force. Ils ont sacrifié de nombreux animaux, nombreux agneaux. Ça, c'est pour le buffet. Et puis ils se sont livrés à de grandes réjouissances. Ils ont le sens de la fête. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné un grand sujet de joie. Un grand sujet de joie. Versets 44 à 47, ils veulent que cette joie, elle demeure. Cette joie perdure et la célébration se poursuive. On ne veut pas juste que ce soit quelque chose d'éphémère. Alors Néhémie, il organise les choses pour qu'il y ait des offrandes qui soient rassemblées, qu'il y ait des magasiniers qui gardent ces offrandes, qui organisent la distribution. Il veut qu'il y ait des chanteurs, des portiers, des sacrificateurs, et que tous soient à leur poste. Et le peuple s'assure que tous aient les moyens d'accomplir leur service fidèlement. Avez-vous remarqué comment l'accent est particulièrement mis sur la musique et sur les chanteurs? Dans les versets 45 et 46, il est dit que les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David. Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs des chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Et on prenait à cœur ces gens, de sorte qu'ils soient consacrés entièrement pour pouvoir célébrer. Et tous ceux qui ont travaillé ce matin pour que la chorale puisse chanter, c'est beaucoup d'heures qu'ils ont passées. C'est beaucoup de sacrifices de temps. Ceux qui sont à la technique ont passé du temps, ont répété, ceux qui ont travaillé sur la lumière, tout ça, c'est travaillé. Tout ça pour que notre Dieu soit glorifié. On veut cela pour qu'il nous conduise dans la louange. Et c'est ce qu'ils ont fait ce matin. Mais c'est aussi parce qu'il y a un sujet de grande joie pour chacun d'entre nous qu'on veut qu'il continue à le faire aujourd'hui. Ce n'est pas simplement célébrer les murailles de Jérusalem. La plupart d'entre nous n'iront jamais à Jérusalem. Non, c'est parce qu'il y a un autre sujet de joie, plus grand encore que celui que eux ont célébré. Une immense joie, et ça c'est la dédicace de notre Sauveur, c'est-à-dire l'entrée dans ce monde de notre Sauveur. James Irvine, l'astronaute américain, l'un des 12 hommes qui ont marché sur la Lune, a eu cette parole célèbre. La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la Terre en la personne de Jésus-Christ. Tous les peuples ont le sens de la fête pour célébrer les victoires, les moments importants de leur nation. Il y a 18 mois, c'était l'investiture de notre président avec tout le faste de la République. Cette année, la France est devenue championne du monde de football. Et toute l'équipe a dévalé les Champs-Élysées sous l'acclamation de tous les Français. Et puis on a commémoré le 100e anniversaire de l'armistice de 1918 avec plus de 70 chefs d'État du monde entier, également sur les Champs-Élysées. C'est étonnant comment on peut célébrer des événements dont la portée est tellement éphémère, d'une importance toute relative. Dans 3 ans et demi, il y a une nouvelle Coupe du Monde. Même célébrer la paix de 1918, ça a duré un peu plus de 20 ans. Et puis il y avait une nouvelle guerre mondiale. Voyez-vous, les choses passe tellement. Alors, ce qui est surprenant, c'est que on est capable de manquer de célébrer les événements les plus essentiels de notre vie. Lorsque le Créateur de l'univers en personne vient sur la Terre pour secourir notre humanité, l'événement semble passer inaperçu des hommes. Les choses se passent dans la plus grande simplicité, l'humilité. Néanmoins, sa venue est quand même célébrée par ceux qui comprennent l'ampleur de l'événement. Et si vous avez encore le texte de Luc chapitre 2 en tête, le premier à célébrer la venue, c'est Dieu lui-même. Vous vous souvenez, quand l'ange est apparu au berger, la gloire du Seigneur, au verset 9, a resplendi tout autour d'eux et les a terrorisés. La gloire du Seigneur, c'est le symbole de la présence de Dieu. La gloire de Dieu s'était manifestée dans le passé, autrefois, à plusieurs reprises. Moïse avait goûté à cette gloire pendant 6 jours sur la montagne. Et puis, lors de la dédicace du tabernacle, la gloire a rempli le tabernacle. Et puis, quelque temps plus tard, c'était lors de la dédicace du temple de Salomon en 1 Roi chapitre 8, la gloire de l'Éternel a rempli le temple. Cette gloire, c'est cette nuée glorieuse, cette lumière éclatante. symbole de la présence de Dieu. Mais quelques siècles plus tard, après le péché et les révoltes multiples de Judas, la gloire de Dieu abandonna le temple. Ça, c'est Ézéchiel qui nous rappelle ça de chapitre 9 à chapitre 11. Comme si Dieu se retirait d'Israël. Elle n'allait plus apparaître jusqu'à cette fameuse nuit de Noël. Elle signifie que la présence de Dieu est de nouveau dans le monde, cette fois pour inaugurer un temple bien plus glorieux, Jésus-Christ lui-même, le temple de Dieu. Et puis les anges aussi comprennent l'événement et ils célèbrent, ils mesurent l'ampleur de l'événement. Dieu vient de s'incarner, il prend une forme humaine. Il se fait simple homme, le Dieu tout-puissant se fait petit enfant, celui qui tient le monde entier entre ses mains, celui qui est l'objet de toutes leurs louanges tous les jours de leur vie dans les cieux et maintenant sur la terre. Alors ils célèbrent Dieu dans des chants de louanges extraordinaires. Celui qu'aucun temple ne peut contenir, que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir, prend forme humaine et repose dans une mangeoire. Alors, pour cette dédicace, ce n'est pas la très belle chorale d'Esdras et de Néhémie, ni même celle de Rachel et de Samuel, mais c'est une multitude de l'armée céleste qui chante. Vous avez eu peut-être le petit frisson tout à l'heure, quand vous avez entendu cette chorale? Je l'ai eu. Ils étaient 25. Imaginez la multitude. Le mot « multitude » évoque vraiment un groupe immense. John MacArthur dit « L'apparition d'un nombre aussi élevé d'anges en même temps est sans précédent dans l'Écriture. » Et ils chantent, ce sont des professionnels les anges, et ils chantent « Gloria in excelsis Deo »« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » La paix que les anges célèbrent ici, c'est la paix avec Dieu qui résulte du salut qu'il offre à ceux qu'il aime. Et les bergers sont les premiers à recevoir cette bonne nouvelle. Les bergers aussi célèbrent cette dédicace. Ils prêtent attention, ils sont probablement une poignée, mais ils prêtent attention au chant et au message. Et puis ils y croient. Ils se rendent à Bethléem pour voir et adorer l'enfant. L'enfant Dieu, né dans une mangeoire. On imagine qu'il raconte à Joseph et Marie tout ce qu'ils ont vu, les anges, et puis l'annonce, la mangeoire. Ils les ont tout raconté, la multitude. Et puis, ils voient ça, tout est conforme. Et puis après, ils vont partout, dans les environs, annoncer cette bonne nouvelle. Ça, c'est une réaction typique de ceux qui ont compris le message de Noël. Vous ne pouvez pas garder ce message pour vous-même. Vous êtes obligé de le partager à d'autres. Un sauveur nous est né. Ce sera le sujet d'une grande joie. Ils vont partager cela. Habituellement, les personnes qui sont les plus audacieuses et les plus passionnées pour annoncer le message de l'Évangile, eh bien, ce sont les cœurs tout nouvellement convertis à Jésus-Christ, ceux qui viennent de découvrir la bonne nouvelle du salut. C'est ceux-là qui vont le porter. Mais au fond, rien ne nous empêche de conserver cette joie dans nos cœurs et de la partager encore et encore à d'autres. Ce qui, au fond, peut éteindre la passion de nos cœurs, c'est le péché de l'ingratitude. Et c'est pour cela qu'il nous faut célébrer. Lorsqu'on se souvient, on retrouve de la joie. Quand on ne se souvient plus de ce que Dieu a fait pour nous, on devient amer, on devient triste. La dédicace, ça sert à cela. Célébrer, fêter, rendre grâce, consacrer un jour pour se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est être sûr d'être rempli de joie rapidement. Les bergers, ils ne peuvent pas s'arrêter, alors ils poursuivent et ils glorifient Dieu et louent Dieu de tout leur cœur pour tout ce qu'ils ont vu et entendu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et puis, ça nous amène à cette dernière personne qui célèbre aussi l'entrée de Jésus dans ce monde, c'est Marie, sa mère, elle-même, au verset 19, elle réfléchissait en profondeur sur le sens de la naissance du Fils de Dieu. J'imagine que chaque maman, le soir de la naissance de son premier enfant à l'hôpital, quand ça se calme un peu, elle doit se souvenir de tout. De la grossesse, des douleurs, des circonstances de la naissance, peut-être les premiers mots de son mari, se souvient de l'émotion, la joie d'avoir mis un enfant au monde. Mais comment il va grandir? Comment est-ce qu'il sera? Qu'est-ce qu'il va connaître? Qu'est-ce qu'il va faire? Pour Marie, elle doit se remémorer la visite de l'ange 9 mois plus tôt, les paroles extraordinaires, lui annonçant que Dieu l'a choisi pour mettre au monde le roi de gloire. Se souvient qu'elle n'a même pas eu à choisir le prénom de son enfant, c'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Il s'appellera Jésus, Dieu sauve. Elle se souvient de la première réaction de Joseph, son fiancé, quand il a appris qu'elle était enceinte. Il a voulu rompre secrètement, jusqu'à ce qu'un ange le visite à son tour et qu'il lui révèle que l'enfant vient de Dieu. C'est Jésus, avait dit l'ange, qui sauvera son peuple de ses péchés. Marie, elle connaissait peut-être la prophétie d'Ésaïe, selon laquelle le Messie naîtrait d'une vierge. Mais jamais elle n'avait pu imaginer que ce serait elle, la vierge. Elle repense à sa grossesse à Nazareth. Elle repense à l'annonce d'un recensement qui les oblige à quitter Nazareth et puis à descendre jusqu'à Bethléem. Elle se souvient de ce que il n'y avait personne pour les accueillir. Elle se souvient de ce que c'était complet à l'hôtellerie, personne n'en voulait, qu'il a fallu naître ici, accoucher ici, dans une étable. Et ces bergers qui arrivent disent simplement, Dieu nous a fait connaître que son fils est né, le roi de gloire est né dans une étable. Et qu'on pourra le reconnaître, c'est le seul enfant qui soit dans une crèche. Le Fils de Dieu. Et elle repasse toutes ces choses dans son cœur. Est-ce possible? Elle s'émerveille de ce que Dieu orchestre toutes choses à la perfection. Mais pour Marie, il y a plus que cela encore. Elle considère le plan rédempteur de Dieu. Jésus est venu pour sauver les pécheurs, comme l'ange le lui a fait connaître. Mais comment cela se produira-t-il? Comment Dieu a-t-il pu choisir Marie pour s'incarner? Comment prendre soin de l'enfant qui est assis là, ou qui est couché dans ses bras et qui est aussi celui qui tient le monde entier entre ses mains, qui est son propre créateur et son Seigneur? Et plus elle y pense, et plus elle s'émerveille. Si lors du premier Noël et de l'investiture du roi de gloire, tous les hommes n'étaient pas présents, seulement quelques bergers, depuis se sont joints à eux une multitude d'hommes et de femmes, de tous les continents et de tous les temps, pour constituer un nouveau cœur qui s'accroît chaque jour pour célébrer les louanges du Sauveur. Mes amis, si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez la chorale. Ce grand cœur qui s'accroît chaque jour pour célébrer les louanges du Seigneur. Ce cœur-là, c'est l'Église, l'ensemble de tous les rachetés, parce que tous les rachetés célèbrent la gloire de Dieu, sa venue dans ce monde, son salut qui nous est offert. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous étiez autrefois? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'était votre vie avant de connaître Christ? La mienne était en ruine, comme les murailles de Jérusalem, comme les habitants de Jérusalem. J'étais dans la détresse, dans la misère morale, accablé par une grande culpabilité. Et Jésus est venu. Et il a lavé mon cœur, purifié mon cœur. Il a pardonné mes fautes. Il a changé ma vie. Il m'a mis en route pour l'éternité. Je sais que je vivrai éternellement dans sa présence. Avec tous les anges, avec l'ensemble de tous les rachetés, nous célébrerons sa gloire à jamais et à jamais. Comprenez-vous l'ampleur de l'événement ? Souvenez-vous de ce que c'est l'intensité de la célébration qui est proportionnelle à l'intensité du défi. Nous étions totalement perdus à cause de nos fautes. Nous étions totalement égarés, esclaves de toute espèce de convoitise. Nous étions détestables. Nous étions sans espérance dans ce monde. Mais la bonté de Dieu, notre Sauveur, s'est manifestée par la venue de Christ dans ce monde et par l'offrande de sa vie parfaite. Par sa mort, par sa résurrection d'entre les morts, il nous a sauvés, il a pardonné nos fautes, délivré de toute condamnation. Il nous a mis en route pour une éternité glorieuse, formant une seule famille, servant le meilleur des maîtres pour le plus glorieux des projets. Alors voilà le sujet d'une grande joie pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous célébrons Noël, voilà pourquoi nous avons une chorale, voilà pourquoi nous voulons encore qu'elle nous conduise dans la louange et la gloire de Dieu. Amen. Prions Dieu. La chorale va se mettre en place encore pendant ce temps. Nous te louons, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu ne nous as pas laissés dans notre détresse. Tu ne nous as pas laissés dans notre misère, mais tu nous as visités d'en haut. Tu nous as secourus. Tu as répondu à notre cri et tu nous as sauvés. Seigneur, nous sommes émerveillés par le plan que tu as mis en place, Seigneur, pour nous racheter. Le Dieu éternel, le Dieu des cieux, celui qui fait l'admiration, la louange, la gloire de tous les anges, a quitté la gloire, est venu dans ce monde, et il s'est fait serviteur. Il est né dans une pauvre famille. Il a vécu une vie simple jusqu'à ce qu'il révèle sa gloire, qu'il accomplisse tous les miracles que l'on connaît, révélant qui il était, nous instruisant sur son plan merveilleux de salut et montant sur cette croix pour nous à notre place, ressuscitant d'entre les morts, montrant que la justice de Dieu avait été satisfaite. Tu règnes à jamais. Tu es vivant pour accueillir chaque homme, chaque femme qui aujourd'hui se repent de ses péchés, se confie dans ton salut, dans ta bonté, dans ta grâce, afin que chacun puisse rejoindre le cœur des anges, puisse rejoindre le cœur d'Église et célébrer à tout jamais ta gloire. Amen. Sois loué, Seigneur notre Dieu. Amen.